Europe 1.
Heures, sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition d'Historiquement Vôtre. Je suis Mathieu Noël. Quoique, après tout, qu'est-ce qui vous le prouve? Et lui, à mes côtés, cet être si élégant qui illumine mes après-midi. Est-ce vraiment Stéphane Bern? Je ne sais plus, je suis perdu.
Et c'est normal, mon cher Mathieu, c'est notre thème du jour. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, ça c'est vraiment pas toi. On réunit trois personnages de l'histoire qui ont usurpé une identité. À commencer par la célèbre histoire de Martin Guerre, qui après avoir disparu pendant 8 ans, laissant femme et un tout jeune enfant, réapparaît. Mais est-ce vraiment lui? Oui, en tout cas c'est lui qui le dit, à moins qu'il ne soit un imposteur qui aurait usurpé son identité. Puis je vous raconte Anna Anderson, ou plutôt la grande duchesse Anastasia Romanov, la grande duchesse de Russie, à moins que ce soit les deux mêmes personnes, ou pas. Bon, écoutez, on verra ça. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai de Stanley Kubrick.
Ou presque, Stéphane. Mon personnage ne ressemblait pas particulièrement au célèbre réalisateur et pourtant il s'est fait passer pour lui durant des années pour se faire inviter dans les plus grands restaurants, les plus beaux hôtels. Je vous raconte l'histoire d'un faux Kubrick mais d'un vrai malin, Alan Conway.
Et avec nous, comme chaque jour, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et aujourd'hui, je vais évoquer pour vous Nicole Girard-Mangin. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Rien.
Bah, c'est normal, parce que c'est la seule et unique Française médecin à avoir été envoyée au front au cours de la guerre de 14-18. Et elle a été mobilisée à la suite d'une erreur sur son nom de famille, figurez-vous. Bah oui, les femmes ne devaient pas être mobilisées sur le front.
Et ils auraient pu rectifier le tir au dernier moment, non?
Elle aurait pu aussi, mais elle n'a pas voulu, parce que d'accord. C'est une sacrée bonne femme, je vous raconterai ça.
Et puis avec nous, David Castello-Lopez qui remonte aux origines d'une invention, d'une mode, de...
Oui.
D'une,
voilà, d'une, ou d'un jeu.
D'un jeu. Et aujourd'hui, ce sont les échecs. Les échecs auxquels je n'ai pas joué depuis très longtemps, mais qui ont un regain de popularité depuis deux ans.
Ah oui.
Massif. Ça a été une des plus grosses progressions dans les jeux en 2020. Ce qui est quand même incroyable pour un jeu qui a 1500 ans. Je vous en raconterai l'histoire.
Mais vous savez pourquoi il y a eu cette...
Oui,
vous
allez nous la raconter.
Mais pas que, ça avait commencé avant.
Ah, c'est vrai.
Ça a aidé,
c'est
mais
vrai.
Ça n'a pas été...
Le Welsh, en tout cas, ça, ah, oui. Stéphane, on peut
ça,
dire que ça s'est jamais démodé. Le Welsh a toujours existé, il existera toujours dans le cœur d'Olivier Pousse,
mais
en tout
bien
cas.
Bien sûr, alors aujourd'hui, c'est une spécialité connue dans le nord de la France, mais qui ne vient pas de là, évidemment. Le Welsh Rabbit ou le Welsh Rarbit, il y a trois manières.
On prend ça en...
Exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Welsh, ben vous expliquerez, je vous donnerai évidemment la recette assez simple d'ailleurs de ce plat plutôt...
Roboratif,
hein, voilà. Oui.
Et ça vient du Pays de Galles ?
Il y a une origine avec le Pays de Galles, exactement.
Enfin, il aime tellement les clochers, les églises, que chaque jour, vers 6h10, Stéphane affronte celle qui surnomme affectueusement...
La plus grosse cloche de France.
Oui, Clémentine, vous serez conviée à jouer à Bern to be Alive. Ce
là,
quiz
là, c'est
qui
Big
nous offre...
Bern, alors.
Ce quiz qui nous offre l'opportunité chaque jour de venger votre honneur bafoué par la goujaterie de Stéphane.
Oh,
mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour, qu'en fait, c'était pas vraiment lui. Coucou tout le monde, méga surprise. Il était parti sans dire au revoir, il revient, mais certains ne sont pas certains que ce soit vraiment lui. Le vrai Stéphane Bern nous raconte Martin Guerre et celui qui se serait fait passer pour lui, l'imposteur Arnaud Dutille.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Pour retrouver la trace de l'étrange histoire de Martin Guerre et de son drôle de double, il faut faire un saut de près de 5 siècles en arrière pour atterrir en 1539 en Ariège. En janvier de cette année-là, on marie deux jeunes gens dans le village d'Artigas, au pied des Pyrénées, Martin Guerre et Bertrande de Rolls. Les deux époux, qui ont tout juste 15 ans, sont issus de familles paysannes, certes, mais plutôt aisées pour l'époque, surtout Bertrande qui est de surcroît l'une des plus belles filles du coin. C'est une beauté, mais une beauté réputée pour sa vertu. Pour tout le village, c'est une évidence. Martin est un sacré vénard. Mais les nuages ne tardent pourtant pas à s'accumuler au-dessus du jeune couple. Alors que les mois et les années passent, le ventre de Bertrande ne s'arrondit pas. Aucun enfant ne vient au monde. Les rumeurs courent, de plus en plus folles, pendant 9 longues années. On dit que Martin est un impuissant, qu'il paye un mystérieux péché ou qu'on lui a même jeté un sort. Mais durant toutes ces années, Bertrande ne lâche jamais son mari. Elle n'écoute pas tous ceux qui lui suggèrent de faire casser cette union stérile. Et après 10 ans, la nature lui donne raison. Comme l'écrira plus tard un juriste du tribunal de Toulouse, Martin fut en état de faire usage des appâts de sa femme et un enfant naît enfin, un petit garçon. Mais la coup de théâtre, Martin Guerre disparaît subitement, peut-être poussé à l'exil par une sombre histoire de vol de grains. Pour Bertrand, c'est une nouvelle épreuve. Il lui faut à nouveau supporter les regards insistants, les rumeurs et les conseils des bonnes âmes qui lui murmurent que Martin est mort et qu'elle a tout intérêt à se remarier, d'autant que sa beauté et la richesse de sa famille font qu'elle ne manque pas de prétendants. Pourtant, Bertrand tient bon, jusqu'à un nouveau rebondissement. 8 ans plus tard, Martin Guerre est de retour. À l'été 1556, un jeune homme d'une trentaine d'années désormais débarque à Artigas en jurant ses grands dieux que Martin Guerre, c'est lui. Et de fait, la ressemblance est suffisamment stupéfiante pour que tout le monde, ou presque, au village, le reconnaisse. Les parents de Martin sont morts, mais pour son oncle, ses 4 sœurs et sa femme, aucun doute. C'est bien leur neveu, leur frère, leur mari qui est de retour. Après tant d'années, son visage a mûri, bien sûr, mais l'œil est le même, les cheveux ont la même couleur. Il est plus costaud, mais cela n'a rien de surprenant. L'homme explique qu'il s'est fait soldat, qu'il a combattu un peu partout, des Flandres à l'Espagne. Et puis il y a mieux. Le revenant connaît Bertrand par cœur, avec certains détails que seul un mari peut savoir de son corps, au souvenir de quelques nuits particulièrement mémorables. Il y a bien quelques sceptiques à Artigas, quelques soupirants déçus aussi, mais après tout, que dire quand sa propre famille reconnaît Martin Guerre? Alors la vie conjugale reprend pendant 3 ans, aussi douce et paisible qu'elle peut l'être. Mais petit à petit, pourtant, le doute s'installe, toujours plus insidieux. L'oncle de Martin Guerre, d'abord convaincu d'avoir retrouvé son neveu, commence à s'interroger de plus en plus ouvertement. Les choses s'enveniment sérieusement et le village est partagé en deux. D'un côté, ceux qui estiment que l'oncle est surtout déçu de voir son neveu récupérer sa part d'héritage. De l'autre, ceux qui commencent à avoir de sérieux doutes sur le nouveau Martin Guerre, bien différent de l'ancien. Les choses se tendent à Artigas, d'autant qu'un soldat qui passe par là en 1559 raconte une drôle d'histoire. Il a bien connu Martin, et ce n'est certainement pas l'homme qui habite dans sa maison et vit avec sa femme, pour la bonne raison que le véritable Martin Guerre a perdu une jambe emportée par un boulet en Picardie. Cette fois, c'en est trop. Pierre Guerre, l'oncle de Martin Guerre, porte plainte contre celui qu'il traite ouvertement d'imposteur. Et Pierre, qui a mené sa petite enquête, a même un nom. Celui qui prétend être Martin Guerre serait en réalité Arnaud Dutil, un mauvais sujet venu d'un lointain village. L'oncle met une telle pression à Bertrand qu'elle finit par s'associer à la plainte, comme si elle ne savait plus qui croire. Il faut avouer que l'accusation est grave. Si elle se vérifie, c'est la mort qui attend Arnaud Dutil, coupable d'avoir profité de l'épouse d'un autre et donc d'avoir trompé à la fois une femme et la religion. Mais l'enquête est compliquée. Le juge de la ville de Rieu, chargé de tirer l'affaire au clair, ne sait très vite plus à quel saint se vouer. Interrogé, l'accusé soutient mordicus qu'il est bel et bien Martin Guerre et pas Arnaud Dutil. Mieux, il a réponse à tout et fournit sans se tromper une foule de renseignements parfaitement exacts sur la vie de Martin Guerre. Et il a des arguments. Si on l'accuse d'usurper le nom de Martin Guerre, c'est évidemment pour une histoire de gros sous. Son oncle Pierre, qui a hérité des biens du père de Martin, n'a pas le moindre intérêt à voir réapparaître ce neveu surgi de nulle part. 150 témoins sont alors interrogés. 30 disent reconnaître Martin Guerre sans l'ombre d'un doute. Une 50aine affirment avec la même conviction qu'il s'agit bien d'Arnaud Dutil, tandis que les autres y perdent leur latin. Mais il faut prendre une décision. Alors, ils condamnent l'accusé à mort, accusé qui fait évidemment appel auprès du Parlement de Toulouse pour un procès qui va donner une envergure incroyable à cette affaire. Ce deuxième procès va être capital. Les juges se heurtent d'abord aux mêmes limites qu'en première instance, mais petit à petit pourtant, la défense semble se fissurer. Un cordonnier révèle que Martin Guerre chaussait 12 points, alors que l'accusé a les pieds plus petits. Un autre détail marque les esprits. L'accusé ne parle presque pas le basque, la langue natale de Martin Guerre. Mais en face, les 4 sœurs de Martin continuent d'affirmer que l'accusé est bien leur frère. Comment trancher alors que, comme le dit un témoin, 2 œufs ne seraient pas plus semblables qu'Arnaud Dutil et Martin Guerre? Le doute paraît sur le point de profiter à l'accusé lorsqu'un nouveau coup de tonnerre se produit. Un homme se présente soudain aux yeux de tous et affirme que Martin Guerre, c'est lui. Avec un sacré argument. Il a bien une jambe de bois, exactement comme l'avait affirmé un ancien soldat au cours du premier procès. Stupéfaite, ses sœurs tombent dans les bras du revenant. Et leur réaction va faire définitivement basculer le procès. Cette fois, Martin Guerre est bien revenu. Et devant la cour, Bertrand demande pardon à son mari de s'être laissé abuser par un imposteur. Tout est prêt pour un tout est bien qui finit bien, mais le véritable Martin Guerre repousse son épouse sans ménagement en l'accusant d'avoir toujours su la vérité. Il faudra des années avant que Martin Guerre s'apaise pour croire enfin à la sincérité de sa femme, mais le doute est effectivement permis. Et si Bertrand s'était finalement accommodé de ce mari tombé du ciel, au point de taire ses doutes? Pour Arnaud Dutille, cela ne change pas grand-chose. Fichu pour fichu, il finit par tout avouer. L'idée de son imposture est née dans un camp de Picardie, lorsque plusieurs compagnons d'armes s'étaient amusés de sa ressemblance avec Martin Guerre. Patiemment, Arnaud Dutille avait alors soutiré confidence sur confidence au jeune homme, y compris les détails les plus intimes de son existence. Lorsque Martin Guerre avait vu sa jambe emportée par une canonnade, Arnaud Dutille avait saisi l'occasion de se faire passer pour lui, convaincu que personne ne pourrait se remettre d'une blessure pareille. C'est bien tenté, mais c'est raté. Et le 12 septembre 1560, Arnaud Dutille est pendu sur un gibet, monté devant la porte même de la maison où il venait de passer 3 ans avec la femme d'un autre, en trompant au passage tout un village. Tel est pendu qui croyait prendre.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à évoquer l'affaire Martin Guerre, nous sommes avec l'historien Pierre Lunel. Bonjour Pierre.
Bonjour à vous.
Bonjour Pierre Lunel. Vous avez publié les plus grands escrocs de l'histoire aux éditions First. Et parmi ces escrocs se trouve forcément Arnaud Dutille qui a usurpé l'identité de Martin Guerre. Cette histoire date du XVIe siècle. Pourtant, elle a parcouru les siècles et on a l'impression que tout le monde la connaît grâce à un film aussi, Le Retour de Martin Guerre avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye, sorti en 1982. En travaillant sur le sujet, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce que vous avez pu découvrir?
Alors, qu'est-ce qui m'a le plus surpris, c'est que c'est une affaire stupéfiante de substitution d'identité. Je ne pense pas qu'avant il y ait eu une pareille affaire, et je pense qu'il a fallu attendre longtemps après pour qu'en avoir une semblable. Quelqu'un qui réussit pendant 8 ans à se faire passer pour un autre, c'est un prodige. De toute façon, les escrocs ou les usurpateurs d'identité sont des gens assez prodigieux au niveau de la psychologie.
Pour que cette histoire ait une telle résonance, qu'on en parle encore aujourd'hui, qu'il y ait un film qui en soit tiré, est-ce qu'il s'agissait en fait de la toute première affaire d'usurpation d'identité en France?
Il me semble, à ma connaissance, je ne vois pas dans les archives de la justice d'alors une affaire semblable qui ait eu un retentissement pareil. Il faut dire que c'est dû également au fait que un appel devant le Parlement de Toulouse, quand le procès a eu lieu, un procès fleuve, c'est un juriste très célèbre, éminent, Jean de Corras, qui était aux manettes.
Que sait-on vraiment de la disparition de Martin Guerre? Qu'est-ce qui lui est arrivé vraiment? Il serait parti comme ça du jour au lendemain faire la guerre sans prévenir personne?
C'est bizarre.
Sa femme,
sa famille? Je ne suis pas un psychiatre pour savoir ce qui se passait dans le crâne de ce brave Martin, parce que tout semblait aller bien dans petit patelin d'Artigat près de Pamiers.
Il venait d'avoir un bébé en plus.
Il semblait heureux. C'était un type assez insupportable apparemment, d'après ce que l'on sait. Il n'avait pas bon caractère, il était soupaulé, tout ça. Puis il avait des bisbilles avec son oncle Pierre, pour des raisons de terre, pour des raisons d'héritage. Et par conséquent, bon, un beau jour, il disparaît. Il disparaît sans laisser d'adresse. Et on a su par la suite qu'il était allé en Espagne, parce que à l'époque, l'Espagne guerroyait contre d'autres pays européens, et puis il se trouvait également, parce que l'Espagne avait des terres du côté de la Belgique, en train de se battre du côté du nord de la France, en Belgique. Ça, on l'a su. Et on a su également que lors d'un siège, il avait perdu une jambe. On l'avait amputé. C'était une sorte d'aventurier, comme souvent les Basques, parce que il est d'origine basque. Hein. Ils sont arrivés en Ariège, mais ce sont des Basques. Ils partaient en bateau, comme cela, découvrir des îles et se promener.
Dans votre livre, Pierre, vous rappelez évidemment qu'à leur époque, au XVIe siècle, La photographie n'existe pas. Alors, ce dont on se souvient surtout, écrivez-vous, c'est d'une corpulence, d'une allure générale, de gestes aussi, d'un ton de voix peut-être, d'un ensemble de facteurs certes évocateurs, mais un peu flous. C'est à cause de ce flou qu'une telle supercherie a pu avoir lieu, en fait.
Ah ben, probablement, parce qu'aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Mmh. Aujourd'hui, on peut incruster vraiment la tête et un personnage sur une pellicule. Donc,
et puis, à l'époque, aussi,
hein. À l'époque, 8 ans, c'est considérable. 8 ans, il se passe beaucoup de choses, non pas tellement dans l'allure générale, non pas tellement dans la physionomie générale, mais tout devient un petit peu flou. Mais le plus extraordinaire dans l'affaire, c'est sa femme,
oui.
Bertrande de Reuls, parce que comment tromper une femme avec qui on a dormi pendant 8 ans, même si on était, raconte-t-on, noué à l'aiguillette, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas lui faire d'enfant. Il lui a fait un enfant très tardivement. Donc, qu'une femme ne reconnaisse pas qu'il ne s'agissait pas réellement de son mari, ça c'est absolument extraordinaire. D'où la grande question, est-elle complice?
Mais cette supercherie a aussi fonctionné, Pierre, parce que Arnaud Dutille l'avait parfaitement bien préparé. Vous dites dans votre livre qu'Arnaud se distingue du reste de sa maisonnée, qu'il n'a pas grand-chose d'un paysan et se révèle assez doué, grand, fort, qu'il parle bien, il est séduisant et doté d'un certain charisme. Donc il est à la fois intelligent et manipulateur.
C'est un manipulateur. On raconte que c'est parmi tous ces jeunes gens, parce qu'à l'origine, il n'est pas d'un patelin très lointain, finalement, cet Arnaud Dutille. Et on le connaît dans les contrées, on sait qu'il est feignant, il est hableur, il est séduisant, ce doit être un assez beau garçon. Enfin, réellement, il a un don de communication. Il y a des gens comme ça qui ont cette espèce de nature à la fois enjouée et séductrice. Ça marche.
Mais c'était quoi ces motivations? On a du mal à comprendre. Il voulait juste une femme et des terres en prenant la vie de Martin Guerre.
C'était il s'est mis dans le lit d'un autre.
Alors moi, mon idée, c'est surtout les terres, parce que c'est un homme séduisant, donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir une absence d'être féminin dans toute cette contrée ariégeoise qui le motive pour aller faire cette histoire de substitution. Je pense qu'il s'agit des terres. C'était un cadet de famille, il n'avait pas d'héritage de son côté, et par conséquent, il voit qu'il y a une famille là-bas, dans ce patelin d'Artigate, qui a du bien, parce qu'ils ont accumulé les guerres, la famille Guerre, donc il y a du bien. Puis Bertrande est également une petite héritière, donc ça a dû l'attirer. Est-ce que le jeu également ne l'a pas attiré? Est-ce que c'est pas vraiment, il n'a pas voulu faire un coup extraordinaire?
Enfin, le jeu est risqué, hein, quand il y a la peine de mort.
Il avait le gibet et la corde qu'il attendait, hein, s'il ratait son coup.
Ah bah oui. Arnaud Dutille connaît énormément de détails sur la vie de Martin Guerre, même des détails les plus intimes. Comment est-ce qu'il a pu arriver à ce niveau d'information et de confession de la part du véritable Martin?
Alors, deux choses l'une. Ou, premièrement, c'est un génie.
Oui.
C'est-à-dire que vraiment, on lui a raconté des choses sur Martin Guerre, et puis il a réussi par une sorte d'intuition prodigieuse à reconstituer le personnage comme un acteur, comme un immense acteur qui joue un rôle. Première hypothèse. La deuxième hypothèse plus probable, c'est que durant les 8 années, il ait rencontré Martin Guerre sur un champ de bataille dans le nord de la France, ou la Belgique, où ils guerroyaient ensemble, qu'ils aient lié sympathie, et que là, il ait pu, entre guillemets, apprendre à être Martin Guerre.
Et ce qui est quand même dingue dans cette histoire, c'est que bon, le projet de se substituer à quelqu'un, prendre sa place, si on sait qu'il est mort, déjà, c'est quand même risqué. Mais là, Arnaud Dutille, il n'a même pas eu la preuve que Martin Guerre était décédé, il ne l'était pas. Il savait juste qu'il avait perdu une jambe. Pendant toutes ces années d'imposture, ça veut dire qu'il vivait dans la peur que Martin Guerre débarque.
Oui, avec peut-être l'ayant rencontré, probablement, et celui-ci, le vrai Martin Guerre, lui ayant dit que il était hors de question qu'il rentre un jour chez lui, qu'il n'en avait rien à faire d'Artigat. Et finalement, l'autre a pu se dire que je vais prendre sa place. On peut tout imaginer dans cette histoire. Mais c'est vrai que, dans la mesure où il n'avait pas la preuve tangible que le vrai Martin était mort, il risquait très très gros, parce qu'il risquait le retour, le fameux retour du vrai.
Oui, mais ce qui est fou quand même, Pierre, c'est comment la suspicion a pu apparaître si tard. Ce n'est qu'au bout de 3 ans que de sérieux doutes se posent avec un procès. Pourquoi on a attendu si longtemps ?
Je pense qu'au début, le jeu était tellement bon que les sœurs l'ont reconnu.
Oui, l'oncle aussi.
Avec des pincettes un peu plus lentement, le tonton, l'oncle Pierre, qui était un peu le gestionnaire de l'héritage de la famille Guerre. Et puis après... tout s'est déroulé très très bien. Bertrande, sa femme, l'a accueilli. Il était gentil, Arnaud Lutil, il savait faire. Il était sans doute beaucoup plus gentil que le vrai. Et ma foi, tout est allé comme ça jusqu'au jour, au bout de quelques années, où voilà que ce faux, entre guillemets, Martin Guerre, se met à critiquer le tonton qui gérait l'héritage en lui disant qu'il l'avait floué, qu'il avait mal géré son héritage en son absence, etc., etc. Et l'autre, à ce moment-là, a commencé de se dire « ça ne ressemble pas au vrai Martin Guerre ». Ou bien, il ne le savait pas, mais il a voulu le traîner en justice, sous le chef d'accusation le plus évident, à savoir l'usurpation d'identité, pour essayer de l'éliminer.
On comprend mieux.
C'est une guerre familiale
bien sûr.
De cette époque-là.
Et en fait... le vrai Martin Guerre était visiblement moins sympathique
que le faux, finalement.
Il n'était pas sympa du
dommage.
Tout. Le vrai, il était odieux.
Ah ben voilà.
Il n'était pas bien avec sa femme. Il n'était pas gentil du tout.
Elle a gagné au change, Bertrand.
On a perdu le mauvais.
Elle a gagné au change. S'est dit, mais celui-là, vraiment, peut-être c'est pas tout à fait le bon, mais il est très très bien.
Il est très bien. Merci beaucoup, Pierre Lunel. Je rappelle le titre de votre livre, Les plus grands escrocs de l'histoire, paru aux éditions First.
Merci Stéphane, merci Mathieu.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais commettre la moindre erreur.
Qui, Nana Mouskouri?
Non.
Parce que vous avez dit quand elle est entrée dans le studio, que vous avez dit, tiens, voilà
écoutez,
Nana.
Écoutez, elle a la même coupe de cheveux, elle a les mêmes lunettes, le même sourire, elle chante moins bien, mais quand même...
Ça, c'est pas c'est vrai, clé. Je chante très bien, vous verrez, quand je vous chanterai, tiens, voilà du boudin, vous verrez, je chante très bien.
On a hâte.
Clémentine Portier-Kaltenbach, et d'erreur, il est question aujourd'hui, puisque vous nous racontez, Clémentine, le destin de Nicole Gérard Mongin, la seule Française envoyée sur le front en 1914, mais par erreur.
Elle doit sa mobilisation à un malentendu. Parce qu'il y a probablement un obscur gratte-papier du ministère des Armées qui a cru, comme elle s'appelait Nicole Girard Mangin, double nom.
Il a pensé que c'était Gérard Mangin.
Il a pensé que c'était Gérard, exactement. Donc, il la convoque, il la mobilise.
Alors,
elle aurait pu tout à fait
protester, montrer sa poitrine,
simplement écrire en disant, écoutez, il y a une grosse erreur, je m'appelle Nicole, et rester à l'hôpital Beaujon, où elle est alors une spécialiste reconnue de la tuberculose. Mais au lieu de cela, par patriotisme sans doute, mais aussi probablement par défi, parce que c'est une féministe, Nicole Girard Mangin, elle a 36 ans, à l'époque elle est divorcée, ce qui est une chose quand même assez rare, elle a un fils en bas âge, et bien au lieu d'écrire en disant « Yamaldon », elle accepte sur le champ son affectation à l'hôpital militaire de Bourbonne-les-Bains dans les Vosges. Alors vous imaginez le médecin qui la reçoit là-bas, il en tombe de sa chaise, il voit débouler une petite blonde très mignonne qui est médecin et qui lui dit « on m'envoie ici pour transformer cet hôpital en hôpital militaire ». Mais comme c'est la guerre et que l'armée française manque de médecins, on se dit « à la guerre, comme à la guerre, cette femme elle est médecin, elle est là, elle a été convoquée par erreur, on la garde ».
On la garde.
Et elle est envoyée quand même, on cherche un peu à la préserver, après son poste à Bourbonne-les-Bains, elle est envoyée pour s'occuper des malades de la typhoïde dans une ville que l'on croit alors à l'abri des bombes, on l'envoie, figurez-vous, à Verdun. C'est quand même bien indiqué, mais on ne le sait pas encore, on n'est qu'en 1914. Qui est cette dame? Elle est née en 1978 à Paris et c'est une très brillante élève. Elle obtient une licence de sciences naturelles. Elle voudrait faire médecine et elle commence d'ailleurs des études de médecine en 1896, mais elle doit les interrompre parce que sa famille fait pression pour qu'elle se marie. Et elle épouse donc un charmant monsieur, monsieur Girard, qui est négociant en Champagne, dont elle a bientôt un fils, Étienne. Mais Nicole Girard-Mangin n'était pas du tout faite pour une vie de mère de famille rangée. Et donc en 1903, elle divorce et elle reprend ses études là où elle les avait laissées. En 1909, elle présente une thèse sur les poissons cancéreux. Et en 1913, elle publie un excès sur la prophylaxie antituberculeuse, maladie sur laquelle elle donne donc des cours à la Sorbonne quand elle est convoquée pour aller au front. Mais revenons à Verdun, comme elle est la première femme médecin convoquée sur le front, on n'a pas d'uniforme pour elle. Il n'y a aucun uniforme pour sa fonction. Donc comment l'habiller puisqu'il n'y a pas de femme médecin sur le front? Alors, on va copier à la va-vite l'uniforme que portent les femmes médecins anglaises, parce que chez les Anglais, il y a des femmes, oui, dans le corps médical, pas simplement des infirmières, et on lui met une casquette d'officier français. Donc pendant toute la guerre, elle va porter un uniforme fait exclusivement pour elle. En février 1916, elle passe l'épreuve du feu, elle évacue sous les obus les blessés dont elle a la charge et elle va créer une camionnette sanitaire, un peu comme l'a fait Marie Curie qui se baladait avec son appareil de radiographie sur le front. Elle récupère des blessés, puis elle leur prodigue les premiers soins, mais elle est capable d'opérer ceux qui ne peuvent pas attendre. On la décrit comme un petit bout de femme d'une indomptable énergie à faire marcher tout un régiment. Elle devient une héroïne et surtout tout le monde la connaît parce que cette petite femme blondinette avec sa casquette et son uniforme unique, évidemment tout le monde sait qui elle est. Et puis elle ne se déplace jamais sans son chien. Elle a un berger allemand qui s'appelle Dunn. Elle est avec ce chien tout le temps. Alors elle va être nommée d'un endroit à l'autre, dans la Somme, le Pas-de-Calais, à Ypres. Elle écume les hôpitaux militaires et en 17, on la charge de créer une école d'infirmières. Ce sera l'école Edith Cavell. Edith Cavell, c'est une autre héroïne de la guerre de 14 qui a été fusillée. Elle faisait fuir des soldats en Belgique. Bon, donc l'école d'infirmières s'appelle Edith Cavell. Elle en devient directrice avec le grade de médecin capitaine. Là aussi, c'est tout à fait inédit. Et à la fin de la guerre, elle se met à la disposition de la Croix-Rouge internationale pour faire des conférences sur le rôle des femmes pendant le conflit. Elle milite au sein de l'Union des femmes françaises. Elle participe à la création de la Ligue nationale contre le cancer. Sacré petit bout de femme, Nicole Girard-Mangin. Hélas, elle meurt prématurément le 6 juin 1919 à l'âge de 41 ans. Et près de son corps, sans vie, on a trouvé des boîte de médicaments parce qu'en fait elle avait appris qu'elle était atteinte d'un cancer incurable, donc elle n'a pas souhaité connaître à la fois la déchéance physique et la douleur, et donc elle s'est donné la mort. Et près d'elle, on a retrouvé sa fidèle chienne Dunn, dont elle-même disait je dois à ma chienne née et élevée là-bas, elle pensait sur le front, des minutes d'oubli, son attachement désintéressé m'a été doux. Et au fait, évidemment, Dunn, ça paraît un petit peu curieux. Oui. Bah oui, mais parce que Dunn, c'était pour Verdun.
Ah oui. Ah,
Verdun, voilà. Dunn. Pourquoi son chien s'appelait comme ça?
Elle aurait pu l'appeler Verdun tout court. Hein. Mm. Aurait été moins mystérieux.
Oui, mais Dunn, ça sonnait bien pour une chienne, non? Dunn.
Mm. C'est une belle histoire.
Merci beaucoup, Clémentine. Belle histoire émouvante et héroïque.
Et cette erreur de nom, quand même, c'est extraordinaire. Mm. Le gars qui se trompe et qui se dit c'est Gérard.
Oui. Mm. Mais comme dirait Coluche. Justement, des erreurs, il va y en avoir beaucoup, certainement, dans le quiz.
Europe 1, historiquement vôtre.
Au fil des mois, le quiz n'est plus tant un exercice de culture générale,
ça, mais on l'a remarqué,
un poker psychologique, Stéphane. Poker psychologique où, à tour de rôle, Stéphane et Clémentine tentent de se déstabiliser en se lançant les pires vacheries. Clémentine, c'est votre tour aujourd'hui. Une petite sur Stéphane.
Si ça se trouve, lui va disparaître en même temps que la reine d'Angleterre. Pas de bol.
Parfait. Profitons du fait qu'il soit encore parmi nous pour jouer à Burn to be Alive. Stéphane, on a fêté les 100 ans de la naissance de Brassens ici même, mais je trouve qu'on a beaucoup moins fêté le centenaire du mariage d'Yvonne de Gaulle et de son grand Charles. C'était le 6 avril 1921. La mère d'Yvonne de Gaulle a été la sixième femme à avoir son permis de conduire. Vrai ou faux?
c'est très connu, Stéphane.
C'est, alors, c'est très précis, hein, la sixième.
Oui, c'est très précis, parce que moi, je suis très précis.
Oui, je dirais oui, puisqu'elle était connue pour être l'une
des pionnières.
Des pionnières.
Oui, mais c'est la sixième, effectivement. Ça, vous inquiétez pas, ça sera ni la septième, ni la cinquième.
C'est confirmé, mon oui est confirmé par Clémentine.
Vous avez...
Comment vous avez fait pour retenir que c'était la sixième?
Mais parce que il en va ainsi de la mémoire qui, pour des raisons étonnantes, conserve des informations tout à fait inutiles dans l'existence. Et ben voilà, ça en fait partie.
Et vous vous souvenez de son nom?
Ah non, alors en revanche, non, voyez.
Marguerite Vendroux.
Oui, Vendroux, bien sûr. Mais Marguerite, j'avais oublié.
Elle était grande, elle était sportive, infirmière pendant la guerre de 14, tiens. Elle était issue d'une importante lignée d'industriels des Ardennes. Oui. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous imagine bien utiliser l'expression « Noël au balcon, pas cotisons ». À mon avis, ça fait partie de votre vocabulaire.
Le non, premier... je préfère « bonté divine » en ce moment.
Bonté divine, c'est plus court.
C'est une expression à réhabiliter.
Alors... Noël au balcon, pacotisons, le premier à l'avoir écrit est Frotter II, évêque de Nîmes au XIe siècle. Vrai ou faux?
Non. Non.
Il n'y a pas eu de raisonnement cette fois-ci.
Non, je ne vois pas, je vois pas Frotter en train de parler de son balcon, déjà.
Déjà, vous savez que Frotter existait.
Déjà, Frotter, bon point, déjà Frotter, c'est vrai que c'est en même temps. C'est
Frotter 2, hein, pas Frotter 1.
Frotter 2. C'est extrêmement pervers comme question parce qu'aller chercher le nom de Frotter 2. Frotter 2 aurait dit en voiture là, Simone.
Ça sent
la magouille. Hein,
l'expression d'après-guerre. Ouais. Quoi,
non, je dis non. Frotter 2 n'a pas dit pas qu'au balcon.
Vous répondez faux. Découvrons la réponse.
Vous avez.
C'est une bonne réponse, on embrasse quand même Frotter 2. Non seulement c'est faux, mais en plus c'est faux. C'est-à-dire que non seulement Frotter n'a rien à voir là-dedans, mais en plus c'est scientifiquement faux. À Noël, il peut faire très beau dans certaines régions, mais pas du tout dans d'autres. Et en plus, Pâques ne tombe jamais à la même date.
Mais alors, qui a exprimé...
Oh, mais ne m'en demandez pas trop, Stéphane. Non, mais... on sait rien.
Ah, vous ne savez pas de quand date cette expression.
Je ne sais pas
de quand date. Sur l'affiche.
Non, ce n'est pas sur l'affiche et ce n'est pas non plus... Attendez, je vérifie. Non, ce n'est pas dans ma mémoire non plus. Question numéro 3.
Le mot balcon doit venir d'un mot italien, quelque chose comme ça. Est-ce que Frotter au 8e siècle aurait parlé de son balcon?
Mais non, il n'y a pas de balcon, bien sûr.
Frotter, excusez-moi.
Pourquoi pas son baldaquin?
Frotter,
mais ne mélangeons pas toutes les époques. Frotter, c'est quand même, tout le monde le sait, le 11e siècle et non pas le 8e, comme vous venez de le dire. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. L'épouse de Louis XVIII était surnommée la Reine Velue. Mais en fait, ce sobriquet est né d'un jeu de mots. Comme elle est venue de Sardaigne, on l'appelait la Reine Venue, puis pour se moquer, la Reine Velue. Vrai ou faux?
Ah, je crois pas.
Je crois qu'elle était
moustachue. Elle était moustachue et très laide. Elle était très très laide.
Ah oui, mais elle était, elle avait une pilosité. Normalement développée.
En fait, Mathieu, il y avait deux sœurs. Et les deux sœurs ont épousé les deux frères de Louis XVI.
Voilà. Les deux sœurs Sardaigne ont épousé les deux frères, les deux Bourbons, les deux frères de Louis XVI.
Donc il y avait les deux moches mariés avec les deux frères qui rêvaient d'être rois, et le pâteau qui lui ne voulait pas était marié avec la ravissante Marie-Antoinette.
Et la sœur Clotilde avait épousé le prince de Sardaigne, le frère des deux moches.
Note à moi-même, ne plus jamais poser de questions sur Louis XVIII à Stéphane Bern.
Vous avez...
Mais évidemment, vous savez tout de ces gens-là, Stéphane. C'est faux. On l'a directement appelée velue, car elle était tout simplement velue, de petite taille, et portée sur la boisson, et dotée d'un certain embonpoint, mais qui sommes-nous pour juger?
Question... Elle est morte assez vite, en fait.
De quoi?
Elle est morte, je sais pas.
C'est celle des deux dont on dit qu'elle était amoureuse de sa dame de compagnie.
Oui, exactement, elle était lesbienne en plus.
Oui, tout à fait.
Question.
Pas le roi Louis XVIII lui-même.
Il était lesbien.
Il taquinait un peu les garçons. Le duc de Blacas, notamment. Enfin, je veux pas, parce que
le
les descendants.
Le comte de Blacas?
Les ducs. Les descendants vivent toujours. Donc
Il était à voile et à vapeur, parce qu'il était avec Zoé Duquela aussi.
Bien sûr.
C'est avec vous, c'est les feux de l'amour.
Oui, mais c'est la vie. Nos dirigeants sont pareils.
Ah. C'est-à-dire, qui taquine les garçons? Non. Vous parlez qui est à voile et à vapeur, Stéphane? Vous avez des informations à nous révéler sur, sur les plus hauts dignitaires de ce pays?
Non, mais ça s'est toujours produit.
D'accord. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, je ne sais pas quel est votre opéra préféré de Offenbach.
Et la
pour
belle
tout
Hélène.
Dire, ça ne m'intéresse pas tant que ça.
Je connais pas juste... La Belle Hélène.
Oui, mais ça, en fait, on s'en fout. Je voulais juste savoir si ce célèbre compositeur a pu rencontrer le non moins célèbre Bibendum Michelin, mascotte de la célèbre marque de pneus.
Est-ce qu'il a pu... Attendez, quand a été créé le Bibendum? Parce qu'avant d'être le Bibendum Michelin, Est-ce qu'il aurait pu... Ah, peut-être pas quand même, parce qu'il est mort avant le tournant du XXe siècle, Offenbach. Et le Bibendum, ça doit être tout à fait... les premiers pneus... Ça, non, il n'aurait pas pu. Je réponds
il
non.
Aurait pas
il
n'aurait
pas pu, non.
Vous avez... gagné !
Stéphane, admirez, contemplez la qualité du raisonnement. Ouais. Elle part sur la mauvaise réponse, mais ensuite elle se reprend. Alors, vous saviez effectivement que Offenbach est mort en 1880. Et le bonhomme Michelin, lui, est né en 1898. La marque date, elle, de 1889. C'est une bonne réponse. C'est donc une égalité entre vous, mes champions. Question numéro 5, elle va vous départager. Il va falloir être rapide. Et nous allons partir en Pologne. Je ne sais pas si vous y connaissez en armée...
Vous n'avez pas de musique pour la Pologne.
Oui, je pensais qu'il y en aurait une, mais visiblement non. Je ne sais pas si vous y connaissez en armée polonaise durant la Seconde Guerre mondiale, mais ça va être l'occasion de réviser. Si je vous dis Wojtek, c'est quoi Wojtek? Trois propositions. C'est Blitzkrieg, mais en polonais. C'est le nom d'un ours de l'armée polonaise qui portait les munitions. Ou c'est l'alcool qui était distribué à tous les soldats de la force armée polonaise. Trois pour Stéphane.
Moi, je veux dire deux, mais ça ressemble à vodka. Je trouve ça plus marrant, votre histoire d'ours, là.
C'est l'ours.
Un ours qui portait les munitions.
Victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach. Effectivement, c'est le nom d'un ours orphelin d'Iran qui a été recueilli, figurez-vous, par l'armée polonaise. Il a reçu un matricule. Ce fut une mascotte très appréciée, même s'il passait la majeure partie de son temps à manger des cigarettes et à boire de la bière.
Je me demande s'il n'y a pas un album du Père Castor autour de cette histoire. J'ai lu une histoire comme ça.
Un album du Père Castor.
Avec un petit ours qui est employé dans un cirque, me semble.
Bah, bravo, Clémentine.
Stéphane, vous n'avez pas assez lu le Père Castor.
Ah, mais bravo, intuition, vraiment, dans grande forme.
C'est une belle victoire.
En fait, moi, j'ai essayé de mettre de la logique alors qu'il n'y en a pas.
Jamais de logique, surtout sur la question 5, Stéphane. Oui, oui.
En plus, c'est là que vous pouvez vous lâcher. Ça ressemble à vodka. Voilà, bien sûr, bien sûr.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vaud, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. En compagnie d'un garçon dont on m'avait dit qu'il était incollable en histoire, mais qui nous a dit l'autre jour qu'il situait les Lumières au 17e.
Oui, pas.
D'où ma question, est-ce que c'est vraiment lui?
Moi, c'est vraiment moi, Stéphane. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est vraiment moi.
Eux, en revanche, Mathieu, c'était pas vraiment eux.
Eh ben, tant mieux, parce que si ça avait été vraiment eux, on n'aurait pas fait une émission sur eux.
Bien vu l'aveugle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on réunit trois personnages qui ont usurpé une identité. Ça, c'est vraiment pas toi. C'est notre thème cet après-midi. Après Martin Guerre et celui qui s'est fait passer pour lui, mais qui ne l'était pas, je vous raconte celle qui serait la princesse russe Anastasia Romanov, ou en tout cas, c'est ce qu'elle a fait croire, son nom, Anna Anderson. Et quant à vous, Mathieu, vous nous racontez l'histoire d'un usurpateur plus proche de nous.
Oui, Stéphane, cet après-midi, je vous propose mon premier long métrage, 2001, Odyssée de l'embrouille. L'histoire à peine croyable d'un type qui s'est fait passer avec succès pour Stanley Kubrick, alors qu'il lui ressemblait pas du tout, il n'avait même pas de barbe. Et pourtant, vous verrez, ça a marché. Je vous présente Alan Conway. Lui, par contre, c'est très facile de le reconnaître, il ne dit jamais
« Belle journée à vous !»
Oh mince, c'est pas lui. Eh bien, bonjour, sosie de David Castello-Lopez.
Oui, tout à fait.
David, vous remontez aux origines d'une invention?
Oui, tout à fait, comme chaque jour. Aujourd'hui, les échecs, quelque chose d'assez classique, les origines et aussi, qu'est-ce qui fait qu'ils ont énormément plus de succès maintenant qu'il y a ne serait-ce que quelques années.
Et puis avec Olivier Pouls, on remonte aux origines d'une recette.
Qui a toujours autant de succès, Stéphane.
Oui, mais je pense que c'est un plat que tout le monde ne connaît pas. Il faut être un peu du Nord pour en avoir entendu parler, ou en tout cas pour en manger régulièrement. Le Welsh rabbit. Oui, c'est un plat un peu copieux, on va dire. Il y a des calories, c'est très bon, mais vous verrez qu'il y a une origine assez amusante et notamment étymologique.
Enfin, dans une équipe, qui plus est lorsqu'elle est exclusivement composée d'hommes, il est bon d'entretenir un esprit de camaraderie. C'était l'idée initiale, mais comme le dit si élégamment Stéphane...
Le plaisir de jouter fut plus fort.
C'est pourquoi nous jouterons gaiement, nous jouterons tout notre sou aux alentours de 6h moins le quart à l'occasion de notre célèbre quiz, la lutte finale. Mais pour le moment, découvrons notre deuxième personnage à avoir usurpé une identité. Stéphane Bern nous raconte Anna Anderson, à moins que ce ne soit la princesse Anastasia Romanov, ou l'inverse. Allez savoir, plus de 100 ans après la disparition du dernier tsar, Nicolas II de Russie, des légendes survivent autour de la famille impériale, et notamment d'Anastasia Romanov, la plus jeune grande duchesse de Russie, avec celle qui prétendait aussi être elle. Stéphane Bern nous raconte l'imposteuse Anna Anderson.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Évoquer la vie d'Anna Anderson, c'est raconter une histoire en deux épisodes. Le premier se déroule à l'été 1918 à Ekaterinbourg, à 1500 km à l'est de Moscou. À la mi-juillet, cela fait plusieurs semaines que la villa Ipatiev accueille le tsar déchu Nicolas II, la tsarine Alexandra Féodorovna et leurs 5 enfants, et parmi eux, Anastasia Romanov, la plus jeune des 4 filles du couple, alors âgée de 17 ans. La demeure est une prison de moins en moins dorée pour la famille impériale, emportée en 1917 par la Révolution russe. Les Romanov y vivent cloîtrés avec leurs derniers serviteurs, coupés du monde par la Tchéka, la police politique du régime bolchevique. À l'été 1918, alors que la guerre civile fait rage entre le pouvoir rouge et les armées blanches, celles des Russes restées fidèles au tsar, on décide d'en finir avec les Romanov. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, le tsar et sa famille sont réveillés et traînés à la cave avec leurs derniers serviteurs. Un commando les abat à coups de fusil avant d'achever les mourants d'une balle dans la tête ou à coups de baïonnette. Les corps sont ensuite transportés à une vingtaine de kilomètres de là, brûlés à l'acide et à l'essence, puis enterrés dans les bois. Le second épisode commence 18 mois plus tard à Berlin, le 27 février 1920, avec le sauvetage miraculeux d'une jeune femme qui vient de sauter dans le canal. À l'hôpital, impossible de déterminer son identité. Prostrée, la jeune femme n'a aucun papier. Pour le personnel et pour les médecins de l'hôpital psychiatrique de Dahldorf, où elle va passer 2 ans, elle devient Fräulein Unbekannt, mademoiselle inconnue. Mais s'il est impossible de l'identifier, son cas commence à faire parler. Les quelques mots allemands qu'elle finit par prononcer ont comme une teinte d'accent russe. Et, plus étrange encore, son corps et sa tête portent les cicatrices de vieilles et vilaines blessures. Une rumeur se répand alors comme une traînée de poudre dans le milieu des Russes blancs, puis dans la presse. L'inconnue du Dahldorf serait Anastasia Romanov. Plusieurs figures de l'ancien régime impérial se déplacent pour rencontrer Fräulein Unbekannt sans que rien de concluant en sorte. Certains croient la reconnaître, d'autres, comme le prince Yusupov, resté célèbre pour avoir assassiné Rasputin, non. Après avoir rencontré la jeune femme, ce proche des Romanov écrit à un ami « J'affirme qu'elle n'est pas Anastasia, mais une aventurière, une hystérique malade et une actrice terrifiante. Je ne comprends pas comment qui que ce soit pourrait en douter. » Yusupov n'a pas fini de tomber des nues. Parce que l'histoire prend de l'ampleur. Désormais rétablie, la jeune femme assure qu'elle est bel et bien la dernière des Romanov, abattue pourtant 18 mois plus tôt. Ses défenseurs construisent une version rocambolesque pour expliquer sa survie. Les diamants cousus dans son corset auraient stoppé les balles des tueurs. Pris de pitié, l'un des gardes de la villa Ipatiev l'aurait ensuite exfiltré discrètement vers l'Allemagne avant de l'épouser en lui donnant une nouvelle identité, Anna Tchaïkovski. La presse s'en mêle, le public s'enflamme et les versions se multiplient, jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne plus rien. En 1927, un enquêteur privé, Martin Knopf, remportant des conclusions convaincantes. D'après lui, Anna Tchaïkovski n'est pas Anastasia Romanov, mais Franziska Szczączkowska, une ouvrière polonaise blessée par l'explosion d'une grenade dans son usine d'armement. Traumatisée au point d'être déclarée démente, Franziska a disparu d'un asile de Berlin en 1920, avant de réapparaître en affirmant être Anastasia. Pour beaucoup, la cause est entendue, et en octobre 1928, 12 des parents les plus proches du tsar qualifient toute l'affaire de conte de fées, ajoutant que, je cite, « le souvenir de nos êtres chers serait terni si nous permettions que cette histoire fantasque soit prise au sérieux ». Mais les partisans d'Anna Tchaïkovski ne s'avouent pas battus et se lancent dans un interminable cycle de procès qui ne mèneront jamais à rien pour une bonne et simple raison. S'il n'est pas possible de prouver qu'Anna est Anastasia, il n'est pas non plus possible de prouver l'inverse. Le plus cruel dans cette histoire tient sans doute au fait qu'Anna Tchaïkovski semble plus ballottée qu'autre chose entre ses opposants et ses partisans. Bien sûr, ces affirmations lui ouvrent l'accès au cercle mondain où on adore jaser sur son destin de grande duchesse déchue. De Berlin aux États-Unis, on se presse pour la voir, une princesse martyre qui n'en voudrait pas à sa table. Mais les mondanités ne changent rien à son état mental. Anna Anderson, du nom qu'elle a adopté pour tromper un temps les médias, ne va pas bien. Les crises se multiplient tout au long de sa vie. Comme en 1930, lorsqu'elle tue son perroquet familier avant de courir nue sur son toit, puis de se réfugier dans une pièce que les pompiers doivent attaquer à coups de hache avant de l'emmener à l'hôpital contre son gré. Les internements épisodiques se multiplient jusqu'en 1968. À 70 ans, Anna Anderson se rend alors aux États-Unis où elle épouse un professeur d'histoire de 20 ans, son cadet, John Mahan. Le couple, relativement aisé, s'installe en Virginie, mais vit pourtant dans des conditions improbables au milieu des ordures qui s'accumulent dans leur jardin. En 1983, un tribunal ordonne l'internement d'Anna Anderson, alors âgée de 86 ans, ce qui provoque un dernier épisode rocambolesque. Son époux l'enlève de l'hôpital et le couple se lance dans une cavale de 3 jours qui déclenche une alerte policière dans 13 états différents. Finalement retrouvée, Anna meurt quelques mois plus tard d'une pneumonie. Le fin mot de l'histoire, lui, ne sera découvert que bien plus tard. En 1991, l'Académie russe des sciences procède à des fouilles dans la forêt de Koptiaki, là où avait été enfouie la famille impériale. On y retrouve 7 corps, dont l'âge et les blessures correspondent à ceux des Romanov, ce que confirmeront les analyses génétiques. 3 ans plus tard, on compare l'ADN d'Anna Romanov avec celui du prince Philippe, oui, l'époux de la reine Elisabeth, apparenté aux Romanov par sa grand-mère. Le résultat est sans appel. Anna Anderson n'était pas une Romanov. Un autre test qui compare cette fois son ADN à celui d'un descendant de Franziska Szanskova, l'ouvrière blessée en 1920 en manipulant une grenade, est en revanche positif. Anna Anderson n'était pas une princesse miraculée, mais bien une ouvrière traumatisée à jamais par un accident et prise dans un engrenage dont elle n'a jamais réussi à s'échapper. Martin Knopf, le détective qu'il avait identifié dès 1927, avait raison depuis le début. Tant pis pour les studios américains et tant pis pour les belles légendes aussi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Anna Anderson et surtout d'Anastasia Romanov, nous sommes avec l'historien Alexandre Zumpf. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour Alexandre Zumpf. Vous êtes spécialiste de l'histoire sociale et politique de la Russie et de l'URSS. Vous avez publié une biographie de Rasputin et vous êtes l'auteur de 1917, La Russie et les Russes en révolution aux éditions Perrin. Tout d'abord, pourquoi la famille impériale, les Romanov, a-t-elle été assassinée? Parce que, bon, rappelons-le, ils étaient prisonniers, on était en pleine révolution russe, en pleine transition politique. Simplement, le tsar avait été destitué, on aurait pu en rester là.
Oui, bien entendu. En fait, ce sont des victimes collatérales de la guerre civile russe qui fit rage à l'époque. Et il y a eu une crainte de la part essentiellement des bolcheviks locaux, en fait, qui tenaient Yekaterinbourg, que une opération de sauvetage ait lieu, comme on avait pu imaginer que Louis XVI s'enfuit, rappelez-vous, la fuite à Varennes. Mmh. Et donc, que tout à coup, un nouveau symbole serait disponible pour les armées blanches qui lutteraient contre la Russie rouge. En réalité, c'était plus une paranoïa qu'autre chose, puisque on va dire que Nicolas II, qui était un tsar malgré lui, hein, il faut bien le dire, eh bien était déjà largement démonétisé et il n'y avait plus que quelques fanatiques qui espéraient se servir de lui. Et lui, surtout, n'était pas forcément d'accord. Il voulait survivre avec sa famille, mais il n'avait pas l'idée de remonter sur le trône. Il avait abdiqué, il avait aussi abdiqué au nom de son fils, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, mais peu importe. Et il n'a pas été tout à fait le dernier des Romanov, puisqu'il avait passé son couronne, la patate chaude, à son frère Michel, qui lui-même s'est empressé de la rendre.
Dans votre livre, vous dites que la nouvelle de l'exécution de la famille impériale fait surtout l'objet de rumeurs, comme il y en a tant dans l'histoire russe. Anna Anderson est une autre rumeur. Il y a eu d'autres Anastasia avant elle, d'autres rumeurs comme ça?
Alors, avant elle, non. Ça a été la première d'entre elles et c'est pour ça qu'elle est importante. C'est important de voir c'est une rumeur qui émerge à Berlin. Et Berlin, c'est l'endroit où se concentre à l'époque une grande compagnie de Russes blancs. Donc, c'est un substrat relatif fertile pour ce type de rumeurs. Et puis aussi, surtout, la rumeur des princes qui reviennent, c'est quelque chose d'aussi vieux que les monarchies, on va pas l'apprendre à Stéphane Bern. Et en Russie, on a notamment l'affaire du faux Dimitri, donc ce fils d'Ivan le Terrible qui est revenu. Ça a donné des opéras, ça a donné un certain nombre d'insurrection paysanne au nom de ce tsar qui revient sauver le peuple et le tirer des misères du temps des troubles. Et bien là, pendant la guerre civile, on a un temps des troubles. La guerre civile n'est pas du tout terminée en 1920. Et donc, il y a quelque sorte un espoir qui renaît, une autre lueur qui naît à l'Est, pas la lueur de la révolution, mais celle de la monarchie qui ne meurt jamais.
C'est le mythe du roi caché. Mais lorsque cette jeune inconnue et retrouver pourquoi autant de personnes veulent absolument croire qu'il s'agirait de la jeune grande-duchesse Anastasia ?
Alors, ils veulent surtout croire dans le fait qu'une partie de la famille impériale a survécu, et il faut dire que certains ont survécu, dont Youssoupov, hein, qui est apparenté, mais en fait, c'est aussi sur le fond d'une grande vague de rumeurs qui vient de cette Russie qui s'est tout à coup fermée, une Russie qui est totalement en guerre. Et il faut dire aussi qu'à Berlin en 1920, on est dans l'après-première guerre mondiale, et il y a beaucoup de personnes qui sont revenues traumatisées de la guerre, beaucoup de personnes qui ont subi des shell-shocks, et ce type de revenants qu'on voit par exemple à la fin du film J'accuse d'Abel Gance de 1919, eh bien c'est quelque chose qu'expérimentent toutes ces sociétés-là. Donc on a voulu croire d'abord au mythe, la Russie est quelque chose qui a toujours fait fantasmer en Occident, et donc tout est combiné pour qu'on puisse croire, et ça aurait pu être Anastasia, ça aurait pu être, il y a eu aussi des faux Alexis, des faux Olga, des fausses Tatiana, des fausses Maria.
Mais il y a eu,
bien sûr.
Mais pourquoi elle... Alors j'avais un point quand même, est-ce qu'elle-même, Anna Anderson, a laissé croire qu'elle était la grande-duchesse, et au fond, elle a été dépassée, puisque je crois que dans les premiers temps, à Berlin en 1920, des proches de la cour l'ont cru, l'ont encouragée, donc elle a fini par se prendre au jeu. Mais au fond,
est-ce
elle a été dépassée.
Elle-même aussi.
Oui, elle a été dépassée aussi par ce mensonge.
Alors, faute d'études psychiatriques très détaillées de ce sujet-là, c'est difficile d'en décider, mais ce qui est sûr, c'est que à la fois peut-être flattée, bon, c'était une personne du peuple, hein, flatté de venir dans, tout à coup dans un milieu extrêmement mondain, flatté d'avoir une histoire, elle qui était sans histoire, sans doute a-t-elle pu un moment ou un autre croire à sa propre histoire, mais dans le fond d'elle-même, sauf dans ces moments peut-être de folie, c'est-à-dire d'accès de ses problèmes psychiatriques notables, elle n'y croyait pas, bien entendu, mais l'histoire pour elle-même était si belle qu'elle avait envie de croire au propre mythe qu'on avait construit autour d'elle, et ça c'est très typique aussi de notre société médiatique du XXe siècle.
Absolument, croire aux belles histoires, mais heureusement l'ADN est là pour attester.
Heureusement,
que...
pas heureusement.
Heureusement, oui. Merci en tout cas Alexandre Zung. Je rappelle votre livre 1917, La Russie et les Russes en révolution, c'est aux éditions Perrin. Et j'en profite pour annoncer que vous publierez dans quelques jours La Russie et l'URSS du milieu du 19e siècle à 1989 aux éditions Atlante.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont usurpé une identité. Après Arnaud Dutil qui a usurpé celle de Martin Guerre et Anna Anderson qui a fait croire qu'elle était la grande-duchesse Anastasia Romanov, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'un homme qui pendant des années s'est fait passer pour Stanley Kubrick.
Alors qu'il n'avait vu qu'un seul de ses films et encore même pas en entier. Qui ressemblait autant à Stanley Kubrick que moi à Brad Pitt, et qu'il n'était même pas américain. Alors a priori, cette histoire pourrait être une épopée jubilatoire et transgressive à la Catch Me If You Can. Hélas, quand on entre dans le détail, on se rend compte qu'elle est aussi triste et désespérante que les dernières analyses de Stéphane.
La syphilis, l'herpès, la blémenorragie.
Secret médical, Stéphane, ça reste entre vous et votre urologue. Non, mon personnage du jour n'est pas Frank Abagnale Jr., dont on a parlé ici, ce personnage flamboyant interprété par DiCaprio dans le film de Spielberg. Si quelqu'un doit réaliser un jour le biopic d'Alan Conway, ce sera plutôt Fabien Antoniente. Car oui, Alan Conway est aussi menteur pathologique, mais disons, la classe en moins. Sur l'échelle des mensonges, c'est comme dans Boucle d'or, on distingue petit mensonge, moyen mensonge et gros mensonge. Prétendre auprès d'une inconnue dans un bar avoir été doté par Dame Nature d'attributs époustouflants...
David Grossex.
Par exemple, petit mensonge. Se dire avocat pénaliste auprès de cette même inconnue alors que vous n'avez assisté en réalité qu'aux deux premières semaines de votre cursus de droit en première année avant de devenir gérant d'un copy-top, moyen mensonge. Affirmer auprès d'une inconnue dans un bar être Stanley Kubrick et lui faire miroiter un rôle dans votre prochain film pour la pécho, gros mensonge. C'est donc, vous l'avez compris, ce qu'a fait mon personnage du jour, Alan Conway. Même si c'est pas vraiment son nom, c'est un des noms qui s'est inventé au fil de ses mythos. C'est en tout cas le dernier qu'il a porté. Car oui, Stéphane, je vous spoil, hein, Alan est décédé. Et Stanley Kubrick aussi, au cas vous ne le sauriez pas. Et Guy Lux, mais enfin là n'est pas le propos. Alors, Alan Conway voit le jour en 1934 sous le nom de Eddie Alan Jablonski. Il naît à Varsovie dans une famille juive polonaise traditionnelle. Son histoire est fascinante. Il fuit les nazis avec une partie de sa famille, s'échappe du ghetto en pleine nuit, n'ayant sur lui qu'une étole et son courage, échappant de près à une mort qui semblait inévitable. C'est beau, non ?
C'est magnifique.
Eh oui, mais c'est faux. Eddie est anglais. Il naît à Londres. Il n'a jamais été ni menacé ni persécuté par personne. Et le seul Allemand qu'il a croisé dans sa vie, c'est Tony Holiday dans un nightclub en 73. Car oui, n'oublions jamais que l'Allemagne a engendré les nazis, mais aussi Tony Holiday. C'est à l'adolescence que notre Eddie commence à vriller, à s'inventer d'autres identités, à voler aussi, ce qui explique son placement en maison de correction. À 20 ans, il décide de changer de nom pour faire, je cite, « table rase des erreurs du passé ». On a tous rêvé comme ça de changer de nom au moins une fois. Stéphane aurait aimé s'appeler Stéphane de Berne pour pouvoir participer au rallye, mais si. David aurait aimé s'appeler Keanu, comme Keanu Reeves, hein, mais Keanu Castello, ça faisait quand même bizarre. Alors, d'après vous, parmi l'infinité des noms sexy qu'on peut imaginer à l'adolescence, lequel a choisi notre champion Eddie? Un indice, il ne parle pas français. Eh bien, Eddie choisit de se rebaptiser Alan Conn.
Quand on est con, on est
une
con.
Une décision, comment dire?
Objectivement con.
Vous êtes dur. Discutable. D'ailleurs, quelques années plus tard, peut-être suite à la réflexion d'un ami français, Alan Conn se rebaptise à nouveau et devient Alan Conway. Mais cette idée de changer de nom pour faire table rase du passé, vous pensez que ça a marché? Ben non. Au contraire, c'est précisément quand Alan devient Conn que sa vie part vraiment en sucette. Escroquerie, vol, emprunt non remboursé, vente fictive, son casier judiciaire s'élargit comme un patient sous cortisone. Mais les escrocs aussi ont un cœur, Stéphane. Alors Alan se marie, fonde une famille et part tenter sa chance avec sa femme en Afrique du Sud. Oui, j'entends ceux qui disent que Bamako, c'est loin de l'Afrique du Sud. Je vous rappelle que dans la bibliothèque d'Europe 1, on a un son par continent. Hélas, là-bas aussi, notre con rechute. Le fisc sud-africain le rattrape, retour à la case départ, l'Angleterre. Home sweet home, cette fois c'est juré, il se range des voitures, il ouvre même avec sa femme une agence de voyage qui marche. Tout pourrait s'arrêter là, mais non, car Alan découvre l'alcool.
Allez, remets-moi un petit jaune.
Un soir, en éclusant, il découvre Orange Mécanique de Stanley Kubrick, le seul unique film du réalisateur qu'il verra d'ailleurs, ironiquement. C'est un électrochoc tel qu'Alan quitte sa femme, qui dira « j'ai vraiment été conne », sans qu'on sache si c'est parce qu'elle se sentait ainsi ou parce qu'elle l'avait épousée. Il quitte sa femme et part vivre avec un homme. Un monsieur qui est évidemment déjà son amant depuis des années, preuve qu'il n'y a pas que sur son nom qu'Alan mentait. Un soir, alors qu'il s'était pointé seul au guichet d'un théâtre londonien, Alan s'entend dire que c'est complet. « Too bad », se dirait le Pékin moyen, pas Alan, qui réplique comme ça du tac au tac « Mais enfin, je suis Kubrick !» Pourquoi? Comment l'idée lui est même venue? Il ne saura jamais l'expliquer. Il aurait pu dire tout aussi bien « Je suis Jésus-Christ » ou « Je suis Stéphane Bern ». Parmi toutes les personnalités suffisamment célèbres pour que ça lui ouvre les portes d'un théâtre, il a pensé Kubrick en premier. Honteuse, la guichetière s'excuse platement, lui donne une place, lui fait visiter les loges et lui propose même de rencontrer les deux actrices principales de la pièce. « Tiens, se dit Alan, c'est beaucoup mieux d'être Kubrick que Conn. » Les actrices, elles, sont aux anges d'entendre un réalisateur si prestigieux faire leur éloge à la fin de la représentation. Le faux Stanley, grisé par son audace, leur propose de jouer dans un de ses prochains films. « Oui, je travaille sur la suite de 2001, Odyssée de l'espace. Maybe 2002, Odyssée de l'espace. Mais d'abord, il faut que je me voie toute nue. » L'imposture est lancée. Le plus dingue dans tout ça, c'est que je vous l'ai dit, Alan ne ressemble en rien à Kubrick. Il ne porte pas la barbe, ses fringues sont ringardes, en tweed et toutes trouées. Il fait 15 kilos de moins que Kubrick. Ce qui le sauve peut-être, c'est que le réalisateur culte vit déjà reclus depuis des années, ne supportant plus d'être photographié. Plus personne ne se souvient ni de sa voix, ni de son visage. Notre Conn s'engouffre dans la brèche. Alan Conway dira concernant cette journée décisive au théâtre « J'étais un type ordinaire, un londonien parmi des millions de londoniens. Je ne le serai plus, j'allais entrer en scène. » Et ce nouveau rôle, il ne le lâchera plus jamais, il va devenir Kubrick. Son fils raconte « Il changeait régulièrement de voix au téléphone, prenait un accent américain et ses amis l'appelaient souvent Stanley pour une raison inconnue. » Ah bah, gamin, il n'est pas très fut-fut. L'imposteur va donc parvenir à tromper son monde et avec brio. Ses victimes, essentiellement de jeunes acteurs à qui il promet des rôles en échange de faveurs sexuelles et d'invitations au resto aussi. Tout ça est assez minable pour rester sous les radars de la justice jusqu'en 92 et sa rencontre avec le crooner anglais Joe Langthorne. Une sorte, vous l'entendez, de sous Claude Barzotti Rosebif. Alan assiste, en tant que Kubrick bien sûr, à un de ses concerts dans une station balnéaire pourrie et il lui dit qu'il est en repérage pour le film Eyes Wide Shut. Le sous Barzotti ne flaire pas l'embrouille et se laisse amadouer. Kubrick lui propose, ce qui ne l'étonne pas le moins du monde, de faire de son spectacle un film. Bon alors bien sûr, comme Kubrick est un peu short niveau cash en ce moment, va falloir sortir un peu de blé de sa poche. Oh, trois fois rien, quelques dizaines de milliers de livres. Le crooner n'hésite pas, il va même jusqu'à loger le faux Kubrick dans un palace de la côte. Un jour, pour l'épater, Alan va jusqu'à faire semblant d'appeler Tom Cruise devant lui pour organiser les détails de leur futur tournage. « Hey Tom, how are you doing, little slut? How is Nicole ?» Puis plus rien, il s'en va. Évidemment, Alan se volatilise et va s'attaquer à d'autres proies. Mais voilà, à force de multiplier les victimes, le faux Kubrick vole à sa perte. En fait, l'assistant du vrai Kubrick reçoit chaque jour des appels en colère de comédiens attendant leur contrat pour des films qu'on leur a promis. Et tous disent avoir rencontré le réalisateur. Et quelque part, ils l'ont rencontré, mais c'était le faux. Au début, Stanley Kubrick trouve ça assez drôle, voire passionnant, voire carrément flatteur, jusqu'à ce qu'il apprenne que Alan Conway ne connaît ni sa filmographie, ni son parcours. Alors là, ça l'amuse moins. La police est alertée, une chasse à l'homme est lancée, et c'est finalement grâce au Claude Barzotti anglais, qui accepte de lui tendre un piège, que Alan va tomber. Le coupable reconnaît les faits et déclare « Je ne voulais abuser de personne, j'étais simplement devenu vraiment Stanley Kubrick !» Une défense qui ne fonctionnera pas, Alan sera condamné. Il aura notamment obligation de fréquenter un groupe d'alcooliques anonymes. Il ira, mais il se présentera comme un grand financier des îles Caïmans. Donc ça n'est vrai comme quoi on se refait pas. De toute façon, se refaire n'aurait pas servi à grand-chose puisque Alan décède 3 ans après avoir été démasqué d'une crise cardiaque. Le vrai Kubrick connaîtra exactement la même mort quelques années plus tard. Coïncidence ou... Non, coïncidence, juste. Une histoire qui nous rappelle en tout cas que l'alcool est le père de tous les vices. J'espère qu'autour de cette table, vous en avez conscience. Olivier, vous avez écouté ce que j'ai dit ?
J'ai picolé en continu de 19h à minuit.
Et ça se trouve, vous n'êtes même pas Olivier Pouls en plus. D'ailleurs, vous ne lui ressemblez pas tant que ça.
Il rosit en tout cas, Olivier. Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos usurpateurs pour retrouver ceux qui n'ont pas usurpé leur place.
Mais c'est sûr, surtout Olivier Pouls qui, contrairement aux vilaines rumeurs qui circulent, ne recycle jamais des chroniques d'une année sur l'autre. Ça vous arrive jamais, ça,
non.
Olivier. Un plat dont vous n'avez jamais parlé encore, le Welsh.
Exactement, le Welsh ou Welsh Rabbit ou Welsh Rarebit, spécialité du Nord, mais qui ne vient pas du Nord.
Et tout de suite, David Castello-Lopez qui remonte aux origines d'un jeu qui a plus de 1500 ans.
C'est les échecs.
Vous le savez, j'ai pas d'enfant. La chose la plus proche que j'ai connue de la paternité, c'était les babysitting. Et quand j'avais 20 ans, je gardais tous les mercredis un petit garçon qui s'appelait Antoine. Et un jour, Antoine, il m'a dit, viens, on joue aux échecs. Et j'ai accepté en me disant, qu'est-ce qu'un enfant de 10 ans va bien pouvoir faire contre moi? Et Antoine, il m'a rétamé ma race. C'est-à-dire que non seulement il a gagné, mais il a gagné très très vite et en me dominant complètement du début à la fin. Du point de vue des échecs, c'était une humiliation totale et c'était en 2002. Et je vous l'avoue aujourd'hui, depuis ce jour, je n'ai plus jamais joué aux échecs. Pour la même raison que je n'ai pas fait de test de QI et que je ne fais pas de sudoku, parce que je soupçonne qu'au fond, je suis un peu bête, mais je veux surtout pas en avoir le cœur net. Mais alors, d'où ça vient les échecs, cette machine à humilier les cons? Je vais commencer par un peu d'étymologie, si vous voulez bien. Vous savez comment ça se dit en anglais, les échecs?
Non, je sais en russe. Ça vous intéresse pas?
Allez-y, en russe
Charmati.
Aussi. Charmati. Charmati, oui, en anglais? En anglais,
cheese.
C'est... Chess,
cheese, l'autre ne peut pas, envisager quelque chose qui ne soit pas fromage. À manger.
Ça se dit chess. Alors celui que vous avez cité en russe et aussi en anglais, chess. À votre avis, de quel mot c'est dérivé?
Du chinois?
Non.
Non.
Ça vient de chat. Chat qui veut dire roi en persan.
En persan, oui.
Ça s'entend encore très bien dans la version russe. Oui. Et ça s'entend aussi dans la version portugaise. En portugais, on dit chedrish. Donc, vous voyez, le choc de chat. Les échecs en français, c'est plus incertain. Peut-être qu'aussi, c'est un dérivé de chat. Mais ça vient peut-être plutôt de skak, qui est un mot franc, qui voulait dire butin. C'est probablement né en Inde au 6e siècle, les échecs. C'est passé en Perse, puis dans le monde arabe. Et enfin, par les Arabes, c'est arrivé en Espagne, puis dans le reste de l'Europe. Il y a eu plusieurs variantes au cours de l'histoire, mais le jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui, il date du 15e siècle, avec notamment un changement important à ce moment-là, qui est la reine. La reine, c'est de très loin la pièce la plus puissante du jeu d'échecs. Elle peut aller partout en un seul coup. Et elle a remplacé une pièce qui s'appelait le conseiller et qui ne pouvait bouger que d'une case en diagonale. Mais alors pourquoi est-ce que c'était une pièce féminine? C'est une pièce féminine qui, petit à petit, à partir du 15e siècle, était choisie pour être la plus forte.
D'autant que le roi est nul. Enfin, il va juste le dans
roi
le côté.
Nul. Alors le roi, c'est le plus important parce que s'il meurt, la partie est finie. Mais c'est quand même la reine, la pièce la plus puissante. Pourquoi? Eh bien, c'est peut-être parce que pendant ces siècles, 15e, 16e, il y a eu plein de reines super puissantes en Europe. Catherine de Médicis, Marie Stuart, Marie Tudor, Catherine d'Aragon, Élisabeth Ière. Et c'est donc peut-être pour ça qu'on a choisi la reine comme pièce la plus puissante. Alors, au départ, les échecs, c'était un truc de cour, mais au XVIIIe siècle, on a commencé à jouer aux échecs dans les tavernes, dans les bars, etc. Et à partir de là, c'est assez fascinant de voir qu'il y a eu des périodes dans le jeu d'échecs, des styles différents qui se sont développés successivement et qui sont liés à des époques particulières. Le premier qu'on a répertorié, c'est le style romantique dans le jeu d'échecs. Le style romantique, c'est quoi? C'est de balancer toutes ses forces dans la bataille, d'attaquer.
Ça, c'est votre style.
Ça, c'est mon style à moi. C'est comme vous attaquez comme un taré de façon un peu téméraire. Et le truc, c'est qu'il faut pas juste gagner, il faut gagner avec panache, vous voyez. Et ça correspond d'ailleurs à peu près à la période romantique dans les arts. L'important, c'est l'émotion plutôt que la technique. Et c'est assez rigolo de voir que petit à petit, à la fin du 19e siècle, on a remplacé ce style fondé sur le panache par un style fondé, lui, sur la précision, de la même façon que l'art a laissé tomber les envolées lyriques pour le réalisme analytique. Et ça a eu son équivalent dans les échecs. Et cette façon rationnelle de jouer aux échecs, ça demandait bien sûr d'étudier le jeu de façon extrêmement
extrêmement carré et rationnel. Et aucun peuple dans l'histoire du monde n'a collectivement étudié les échecs rationnellement de plus que les Russes. Et pourquoi, en fait, les Russes étaient obsédés à ce point-là par les échecs? Parce que, au XXe siècle, pour les Russes, les échecs, c'est devenu une arme géopolitique. Gagner aux échecs, c'était une preuve de la supériorité intellectuelle de l'homme communiste sur l'ordure capitaliste décadente. Et les Russes, ils ont dominé les échecs comme rarement quoi que ce soit a été dominé. Entre 1948 et 1969, ils ont non seulement gagné absolument tous les championnats du monde, mais même tous les finalistes de toutes les finales du championnat du monde, c'était des Russes aussi. Vous voyez, il n'y a que des drapeaux russes entre 1948 et 1969. La dernière étape, si vous voulez, de l'histoire des échecs, c'est 1997. Vous savez ce qui s'est passé en 1997 ?
IBM, la machine, Kasparov.
Exactement. Deep Blue, l'ordinateur d'IBM qui a battu Kasparov. C'est assez facile de comprendre pourquoi les ordinateurs gagnent aux échecs. Oui. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs d'échecs, ils peuvent envisager des dizaines de coups à chaque fois pour en choisir un. Les ordinateurs, ils peuvent en analyser des dizaines de millions au même moment. Et en plus, les ordinateurs, ils sont pas sujets ni à la fatigue, ni à la pression psychologique. On peut pas les intimider. C'est une espèce de glaçon froid. Alors, on pourrait dire que c'est triste, cette nouvelle époque de la domination des ordinateurs. Mais d'un autre côté, ce sont aussi les ordinateurs et Internet qui ont permis de démocratiser les échecs. À une époque, il y avait que les Russes. Maintenant, il suffit de se connecter à Internet et on peut étudier des parties beaucoup mieux qu'on pouvait les étudier avant. Il y a une beaucoup plus grande diversité de joueurs. Ils sont de plus en plus jeunes. Et il y a aussi ce truc, cette actualité des échecs. En 2020, c'était le jeu en ligne qui a connu la croissance la plus forte. Alors, c'est probablement à cause de l'Internet, comme je l'ai dit, etc., du développement des tutoriels en ligne, mais c'est aussi, vous l'avez soupçonné comme moi, le jeu de la dame de Queen's Gambit, la série de Netflix qui a en fait donné une sorte de nouvelle jeunesse à ce jeu qui a 1500 ans.
Mais merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien dans cette ultime demi-heure. Avec Olivier Pouls, on se penche sur un plat qui sent bon le Nord.
Oui, c'est vrai que dans le Nord, tout le monde le connaît, hein, le Welsh rabbit ou Welsh rarbit. Il y a trois manières de le prononcer. C'est un plat qu'on ne connaît pas forcément dans d'autres régions, qui est très ancré dans cette gastronomie du nord de la France, mais il n'est pas originaire du nord, on va tout de suite le dire, il est originaire évidemment du pays de Galles, puisque Welsh d'ailleurs veut dire gallois en anglais, et l'étymologie de ce plat viendrait du fait que les Anglais avaient vis-à-vis des Gallois un peu de condescendance, et au XVIIe siècle, on associait les produits de mauvaise qualité aux Gallois, on les appelait des Welsh. Et tout simplement, ce plat que les Gallois mangeaient, qui était un plat de pauvre, un substitut à la viande, quand il n'y avait pas de lapin, on remplaçait le lapin par du pain. Et donc, les Anglais appelaient ça un Welsh rabbit, un lapin gallois, une espèce de plat.
Drôle ce mépris.
Ouais, il y avait une sorte de mépris, effectivement. Ouais. Et donc, le nom vient de là. Alors, ce plat, je vous l'ai dit, était un plat de pauvre qu'on mangeait dans les campagnes. Il est composé de pain rassis qu'on a laissé tremper dans de la bière et agrémenté de fromage. Dans la recette originale, il ne s'agit pas de cheddar, mais d'un autre fromage britannique qui s'appelle le Chester. Le cheddar, qui est un fromage en réalité aujourd'hui majoritairement industriel et pas toujours très bon, même s'il existe quelques cheddars de qualité. Cheddar. Alors ce Welsh est arrivé chez nous probablement au moment de la Première Guerre mondiale, grâce à des détachements de soldats britanniques qui avaient été installés dans le nord de la France et qui auraient donc apporté cette recette avec eux et l'auraient transmise pour pouvoir en manger aux bistrotiers et aux restaurateurs du coin, leur livrant la recette. Alors, la recette du Welsh, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple. Vous allez voir, c'est effectivement un peu calorique, mais c'est très simple à faire. Et puis surtout, c'est délicieux. La base, du pain de campagne un peu rassis, chacun une tranche. Du fromage. Alors, évidemment, quand on le mange en Angleterre ou au Pays de Galles, c'est du cheddar aujourd'hui. Mais en France, notamment dans le Nord, on le fait volontiers avec du maroilles. Ça donne un goût un peu différent. Bon, ça sent un peu dans la cuisine quand vous faites chauffer. Hein, mais évidemment que c'est très bon. Il faut de la moutarde, de la bière, 10 centilitres de bière, et puis il y en a qui font aujourd'hui des Welsh améliorés qu'on appelle les complets, c'est-à-dire avec du jambon et des œufs.
Alors à l'origine, on n'a pas forcément une croûte au fromage.
Oui, exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait l'idée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait griller notre pain de campagne. bien toastée comme il se doit. On met dans un caquelon la bière qu'on fait chauffer, ça va la débarrasser de son alcool. Dedans, on met du fromage en quantité assez importante, un petit 100 grammes par personne. Le pain, une fois qu'il a été grillé, on le tartine avec de la moutarde, petite moutarde à l'ancienne, c'est parfait. Dessus, on vient verser notre préparation à base de bière et de fromage fondu. Là, on peut casser un œuf, on peut rajouter un peu de jambon, et ensuite, on le met à gratiner pendant quelques minutes sous le grill du four, de manière à ce que tout ça, le fromage vienne bien croustiller. On le sort, et hop, c'est parti. 350-400 calories par portion de Welsh. Pour l'hiver, c'est bien, ça tient encore, mais c'est vrai que c'est délicieux.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Et pour terminer, qui va se faire manger un petit morceau et arroser de bière? Eh ben, on va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter dans la lutte finale?
Surtout si on peut se faire arroser de bière, moi je suis partant.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe, une question pour chacun. En cas d'égalité, une dernière question pour vous départager avec un chiffre à donner. Et il faudra s'approcher au plus près de la bonne réponse. Alors, je commence par vous Olivier. L'épouse de Charles de Gaulle, la célèbre tante Yvonne, n'était pas d'une grande amabilité envers les gendarmes qui tenaient la garde de l'Élysée. Ils avaient interdiction en hiver de prendre une petite couverture, chose qui avait été permise avant qu'elle ne devienne première dame. Vrai ou faux ?
Ah, vous êtes en train de nous faire passer tante Yvonne pour une solide mégère qui n'aurait même pas pitié de ces pauvres gendarmes se légelant dans la cour de l'Élysée. Bon, allez, je vais dire que oui, c'est tout à fait possible.
C'est l'inverse. Mais non, c'est l'inverse, c'est au l'inverse. Contraire. Oh. Les plantons, ils avaient droit à un café chaud immédiatement quand elle arrivait.
Enfin. Mais je suis content de m'être trompé. Oui, oui. Est-ce que ça m'aurait,
c'était vraiment
ça
une
m'aurait
sacrée,
ennuyé
qu'on, une sacrée
qu'on,
bonne
qu'on,
femme,
qu'on
voilà.
ait une mauvaise image d'elle.
Oui. David, en 1972, sous le président Pompidou, un nouveau gouvernement est formé. Dans la précipitation, on nomme Xavier Degnaud, mais en fait, c'est une erreur. On l'avait confondu avec son frère Jean-François Degnaud. C'est vrai ou c'est faux?
Ça paraît complètement débile, parce que quand même on fait gaffe quand même.
On se renseigne.
On se renseigne sur les ministres. J'en suis rien. Je vais dire que c'est vrai, allez.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est le premier ministre Pierre Messmer qui avait commis la boulette. Xavier Degnaud a été un an secrétaire d'État des départements et territoires d'outre-mer, par erreur. Alors Mathieu, la nicotine tient son nom de Monsieur Nico. C'est vrai ou c'est faux?
Qu'est-ce que ça voulait dire? Sinon c'est une étymologie, Nico. Mais en même temps, je suis pas capable de vous donner l'étymologie. Donc en fait, j'en sais rien. Je vais dire que c'est faux. C'est Monsieur Nico.
C'est vrai, bien sûr. Jean Nico, qui était ambassadeur de France à Lisbonne au XVIe siècle. C'est lui qui a...
Il a découvert cette substance.
Oui, le tabac a longtemps été surnommé l'herbe de Nico. C'est Jean Nico. C'est vous qui gagnez.
Oui, oui.
Alors que vous avez gagné, mon cher David Cassel-Lopez, sans conviction.
Non. Exactement.
Vraiment, sans y croire.
Sans y croire vraiment.
Ouais, ouais.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre se termine, les amis. Il était consacré à ces gens qui se faisaient passer pour d'autres. Est-ce que vous, Stéphane, vous avez été déjà victime comme ça d'une usurpation d'identité?
Ça arrive tout le temps parce que tout des gens disent, par exemple, chez des grands couturiers, des gens reçoivent des demandes signées de Stéphane
Bern. Non, c'est vrai?
Oui, bien sûr. Mais les gens m'appellent en me disant, est-ce que... Et je dis, moi, je n'accepte jamais aucun cadeau, vous devriez le savoir, donc je refuse tout.
Il y a des gens qui ont le toupet de...
Mais des gens essayent, bien sûr.
Quand ils vont le retirer, les gens voient bien que c'est pas Stéphane Bern.
Oui, mais ils disent, envoyez-le nous, voilà, je suis l'assistant.
Pauvre France, Stéphane. Ouais. En tout cas, je le confirme à nos auditeurs, aujourd'hui, c'était vraiment vous. Dimanche aussi, on peut compter sur la présence du vrai Bern.
Ah oui, vous pouvez, Mathieu, vous pouvez compter sur moi, je serai là à dimanche, les amis.
Salut Stéphane, salut à tous.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.